Merci Géraldine, à lundi.
La science CQFD, Natacha Triou.
Pour ce vendredi grand portrait, on rencontre une célèbre pneumologue surnommée la fille de Brest, Lyrine Brokovitch à la française. La lanceuse d'alerte du Mediator, Irène Frachon, est notre invitée. Elle a révélé le scandale du Mediator, médicament prescrit à 5 millions de personnes en France et commercialisé pendant plus de 30 ans par Servier, l'un des plus puissants laboratoires français. Ce poison, mortel pour le cœur, a causé la mort de 1000 à 2000 personnes et on continue de recenser de nouvelles victimes. Un crime industriel hors norme et un procès tentaculaire. Pour reprendre ces mots, ce n'est pas juste un scandale de médicaments toxiques, il est révélateur de dysfonctionnements graves de notre démocratie sanitaire et le combat n'est pas fini. Irène Frachon, médecin en alerte. Irène Frachon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pneumologue au CHU de Brest, lanceuse d'alerte sur l'affaire du Mediator, et vous venez de publier Mediator, un crime chimiquement pur, avec Éric Giacometti et François Duprat aux éditions Delcourt. Merci à vous d'être avec nous en direct des studios de France Culture, et merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur notre fil à Science CQFD, où nous postons tout au long de cette heure les sources qui ont nourri cette discussion. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de l'histoire du Mediator, de votre histoire, de l'enquête que vous avez menée, des alertes que vous avez inlassablement lancées, des répercussions de cette affaire. Mais avant tout, Irène Frachon, pourquoi avoir fait le choix de la bande dessinée pour raconter cette histoire ?
Alors, le choix de la bande dessinée, il est pour raconter une histoire qui s'étale sur 60 ans, qui commence dans les années 60, et embarquer un lecteur avec une histoire qui est totalement factuelle, mais qui se lit comme un thriller. Et je l'ai vécu comme tel d'ailleurs. Ça, c'est je voudrais que pour ce poison qui a été commercialisé à plus de 5 millions de personnes, qui a été précédé par d'autres poisons comme l'isoméride, qui a été prescrit à plus de 10 millions de personnes, je voudrais que tout citoyen, notamment les jeunes, notamment les étudiants en médecine, en droit, en sciences politiques, etc., puissent savoir ce qu'a été, ce qu'est, parce que malheureusement c'est pas fini, cet immense scandale sanitaire, quels sont ses ressorts précis, quelle est l'histoire de cette firme délinquante Servier, très marquée par la personnalité de son fondateur, Jacques Servier, quelle est l'histoire de une histoire d'influence entre ce laboratoire, des autorités sanitaires, des autorités politiques, des autorités médicales, qui ont failli, qui ont été infiltrées, qui ont été dans un système qu'on pourrait presque appeler une conspiration contre la santé publique. Tout ceci, a priori, semble complexe, semble flou. Or, moi, je pense que c'est une histoire qui est assez simple, à condition qu'on ait un fil vivant, et finalement qu'on le lise et qu'on s'approprie comme une BD, voire comme un film presque. Et donc le support de la BD, c'était un peu un fantasme pour moi, parce que c'est quand même, il faut trouver les bons acteurs, mais on va y revenir, moi je suis pas auteur de BD, pour raconter cette histoire et qu'elle soit lue. Et qu'elle soit lue par tous.
Ouais, ce lit, en plus, ça se dévore d'une traite, comme vous dites, ça se lit comme un polar, comme un thriller médical. Vous avez collaboré avec Éric Giacometti. Ce que je trouve intéressant dans cette collaboration, c'est que lui aussi a mené une enquête contre le laboratoire Servier sur l'isoméride, on y reviendra. Et c'est intéressant, parce que dans cet album, vous mettez aussi en relief le rôle majeur des médias dans cette affaire.
Oui, alors, oui, je dis, le média, c'est le quatrième pouvoir. Et on en a sacrément besoin. Éric Giacometti, c'est une histoire dingue, parce que, en fait, quand j'étais très jeune, j'avais 27 ans, je le raconte dans la BD, je suis témoin, comme jeune interne en médecine, d'un drame qui se déroule, des jeunes femmes qui meurent parce qu'elles ont consommé un coupe-faim dérivé d'amphétamine et qui est commercialisé par le laboratoire Servier. Et on va mettre des années à retirer ce coupe-faim alors que ça ne sert à rien et que le risque pris est absurde. Tout ceci m'a profondément marqué à l'époque, surtout que Servier s'en est sorti en toute impunité et on va voir que ça a eu des conséquences désastreuses. Et il y a un journaliste du Parisien qui avait enquêté là-dessus, qui avait essayé de faire sortir cette affaire avec l'histoire tragique d'Anna, qui était une victime jeune de l'isoméride. Et puis, finalement, l'affaire, voilà, a été enterré dans les mémoires et les victimes avec. Et cet Éric Giacometti, dont j'avais entendu parler à l'époque, est devenu ensuite auteur de thrillers à succès avec un co-auteur qui s'appelle Raven. Et puis j'apprends aussi qu'il devient le scénariste successeur pour la BD Largo Winch. Et puis on s'est bien sûr contacté, on a sympathisé en 2011. Il était effaré de cette récidive de Servier avec le Mediator, comme si l'affaire de l'isomérie n'avait pas suffi pour qu'il comprenne qu'on peut pas vendre des poisons comme ça. Et on avait sympathisé, on était resté en contact. Et puis en 2019, je lui dis, tu sais Eric, cette histoire, elle mérite une BD. En réalité, parce que on est choqué de voir que finalement, on se polarise sur le Mediator, mais et l'isoméride, et le pondéral, et le redox, etc. Et quelques jours après, il me rappelle, il me dit, je suis tout à fait d'accord, moi la pilule, elle est pas passée, et je vais te faire rencontrer Guy Delcourt, qui a été enthousiasmé par ce projet. Il nous a dit, ce qui va être compliqué, c'est de trouver un dessinateur, un bon dessinateur, qui sache rendre la subtilité, la sensibilité aussi de cette affaire, et qui soit disponible. Et puis, ça a été, le deuxième miracle, qui était donc ce dessinateur François Duprat, avec un coloriste de grand talent qui s'appelle Paul Bonnat. Et voilà, l'aventure est partie, on a travaillé beaucoup, pendant plus de 2 ans, et pour polir un récit qui est entièrement factuel. Je vous dis qu'il commence dans les années 60 avec la naissance de ce laboratoire, la synthèse de cette amphétamine, dérivée d'amphétamine, coupe fin, et tout ce qui s'ensuit. Et on avait à disposition un matériel fabuleux, un procès qui s'est tenu pendant 7 mois, des pièces du procès de perquisition, des témoignages sous serment de nombreux témoins à ce procès, y compris de témoins très historiques. Donc on avait les livres de Jacques Servier, on avait nos propres souvenirs, ceux d'Éric, les miens. Bref, il suffisait de se laisser porter par cette histoire et de penser à tous les lecteurs pour leur dire non, c'est pas barbant du tout, c'est juste passionnant cette affaire, tragique et passionnant.
Alors pour revenir, parler justement de vos souvenirs qui irriguent en effet toutes les pages de cet album, le point de départ, vous l'avez dit, c'est vous avez 27 ans, vous êtes interne stagiaire dans le service de pneumologie à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, vous devenez le témoin de ce scandale avorté qui est celui de l'isoméride. Racontez-nous à cette époque, c'est vos années de formation, qu'est-ce qui vous marque, qu'est-ce que vous retenez de ce moment-là?
En fait, j'arrive dans un service qui est spécialisé pour prendre en charge une maladie rare qui s'appelle l'hypertension pulmonaire et qui est mortelle en quelques années, qui touche une personne par 1 million d'habitants. Voilà, bon. Ce qu'on appelle un peu les maladies orphelines. Et puis, dans ce service, il y a une grande agitation. Les médecins sont très inquiets parce qu'ils voient arriver des jeunes femmes qui meurent rapidement de cette maladie. C'est tout à fait inhabituel. Et ils font le lien avec la consommation d'un coupe-fin qui a été mis sur le marché en 85, l'isoméride, par le laboratoire Servier. Alors, pourquoi ils font le lien? Parce qu'il y a eu un précédent. Dans les années 70, il y a eu une épidémie de cette maladie mortelle, plusieurs centaines de morts en Suisse, en Allemagne, en Autriche, après la commercialisation d'un produit dérivé d'amphétamine, coupe-fin, qui s'appelait l'aminorex. C'était pas Servier, c'était un autre labo. Et évidemment, ces coupe-fins dérivés d'amphétamine, du coup, on a gardé ça en tête. Et là, c'est un médicament de Servier qui s'appelle l'isoméride. Et puis surtout, le nombre de ces jeunes femmes qui arrivent est absolument effrayant et on n'a rien à leur proposer. Ou alors une greffe d'organes in extremis. Vous vous rendez compte de ce que ça représente, une greffe cœur-poumon? Voilà. Et surtout, ce qui m'affole, c'est que je me dis, c'est évident. Eh ben non, le produit n'est pas retiré. Les gens ne sont pas avertis. Le labo est dans le déni violent, farouche. Les autorités de santé sont pétrifiées, car il s'agit d'un laboratoire français. Et moi, jeune médecin, je me dis, mais c'est quoi ce cirque? Ce médicament, il fait perdre 2-3 kilos, qu'on reprend d'ailleurs dès qu'on l'arrête. Pour être un petit peu plus à l'aise l'été à la plage. Enfin, mais c'est quoi ce cirque? Et aux États-Unis, ce médicament, licencié par Servier, va être également massivement diffusé, après d'ailleurs une embrouille de Servier qui va corrompre des consultants de la Food and Drug Administration et corrompre des éditeurs du New England Journal of Medicine, c'est une histoire de dingue. les Américains découvrent que non seulement ça provoque cette maladie pulmonaire, mais que ça attaque aussi les valves du cœur. Et là, enfin, c'est l'interdiction de ces produits coupe-faim en 1997. 7 ans après mon stage de jeune interne dans le service de l'hôpital Antoine Béclair, à Clamart. Et aux États-Unis, il va y avoir une énorme, ce qu'on appelle class action, une action pénale et civile majeure contre ces labos, qui va aboutir à des indemnisations de dizaines de milliers de victimes à hauteur de dizaines de milliards de dollars d'indemnisation. Et en France, rien, ou presque. L'impunité totale, la justice ne s'en saisit pas. Des victimes portent plainte au civil, la majorité sont déboutées violemment. Seule une petite femme de ménage, Anna, qui a une double greffe pulmonaire, va réussir à porter ce combat contre 10 ans d'une violence inouïe face à la défense de Servier et à obtenir gain de cause. C'est ça qu'Éric Giacometti essaye de faire sortir dans les journaux. Il va essuyer plusieurs procès en diffamation de la part du labo Servier et d'autres intimidations. Et ça fait pchit. Cette histoire m'a sidéré à l'époque. Et je pense que c'est cette mémoire-là qui a permis que, en 2007, devenu spécialiste de cette maladie rare à Brest, l'hypertension pulmonaire, on m'adresse une patiente obèse et tout à coup je vois qu'elle est sous Mediator. Et là, je me souviens qu'on m'a dit que le Mediator du même laboratoire Servier, soi-disant antidiabétique, avait peut-être une ressemblance, un lien avec l'isoméride.
Oui, pour bien comprendre, hein, parce que c'est ça, c'est cette pièce du puzzle, c'est l'isoméride. Hein. Pour bien comprendre le Mediator, faut s'intéresser à cette molécule qui est la noranflanfluramine.
si vous voulez, on peut l'appeler la moron, hein, c'est tout ça.
C'est la molécule du principe actif de l'isoméride et du Mediator.
Alors on va résumer très simplement ce que j'ai mis, en réalité, des mois et des années à découvrir, le poteau rose, c'est-à-dire la morora. Simplifions. En 1960, dans les années 60, le labo Servier met au point un dérivé de l'amphétamine, ce fameux norfinfluramine, s'aperçoit que c'est un produit très efficace pour faire maigrir, toxique, déjà, mal absorbé. Et il va créer des molécules qui délivrent à l'organisme la norfinfluramine. Si vous voulez, c'est le principe actif, d'accord ? Et ces molécules s'appellent le pondéral, l'isoméride, vendu comme coupe-faim, et le Mediator. Et le Mediator, ça c'est le procès, donc je révèle déjà ce que je vais découvrir et ce que le procès pénal et les perquisitions vont révéler. Donc, Servier fabrique, pondéral, isoméride, coupe-faim, très bien. Mais il a aussi une molécule qui s'appelle le Mediator qui délivre cette norfinfluramine, donc ce principe actif. Il se dit, qu'est-ce que je peux en faire ? Et là, on a retrouvé des documents internes à la firme, une réunion marketing du produit, je crois que c'était en 69, où ils disent, qu'est-ce qu'on fait du Mediator ? Et là, ils disent, on va pas dire que c'est un coupe-faim, on va bannir le terme coupe-faim, anorexigène, et on va dire que c'est un antidiabétique. Pourquoi ? Parce que quand on a un diabète, maigrir, c'est plutôt assez bon pour le diabète. C'est tout. Voilà. Mais d'emblée, il y a déjà une fraude, puisqu'on va masquer le fait que c'est la même chose que l'isoméride et le pondéral.
Oui, ça permet en
et
plus.
Et le Mediator est commercialisé à ce moment-là comme antidiabétique. Remboursé.
Voilà.
Ah, c'est plus.
Remboursé.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Vous écoutez France Culture et nous avons la chance de nous entretenir tout au long de cette heure avec Irène Frachon, la lanceuse d'alerte dans l'affaire du Mediator. Alors nous venons de parler dans un premier temps de vos premières années de formation, du scandale avorté de l'isoméride. On parle également de ce moment où vous faites le lien entre isoméride et Mediator. C'est en 2007 donc. Vous regardez alors dans Prescrire. Est-ce qu'on peut définir ensemble la particularité de cette publication ?
Ah oui, la revue Prescrire, d'ailleurs mes droits d'auteur seront versés à l'association Mieux Prescrire parce que je pense que ça a beaucoup de sens dans ce drame. La revue Prescrire, c'est la Vigie. C'est une revue complètement indépendante des financements de l'industrie pharmaceutique notamment, mais même aussi de toute subvention qui ne vit que par l'abonnement, qui est d'ailleurs assez cher, et qui est destiné à tous les médecins qui souhaitent avoir un regard et une analyse critique sur les médicaments qui sont mis sur le marché, anciens et nouveaux. Et bizarrement, de manière un peu réflexe, j'ai toujours été abonnée à Prescrire. Je me suis toujours dit, c'est un espèce de garde-fou, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, éventuellement, t'entends, on se dit, oh là là, quand même, cela... on a tellement une pub marketing des labos qui nous dit, ça c'est génial, puis on ouvre la revue Prescrire qui nous dit, bof, ça a des effets secondaires, faites attention, c'est pas si c'est vraiment efficace, enfin voilà. C'est une revue très critique, très indépendante, et...
C'est la bête noire des laboratoires pharmaceutiques.
Bête noire des laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Et c'est cette revue, effectivement, et un ancien collègue de l'hôpital Antoine Béclair, qui m'avait alerté sur le Mediator, un peu suspect et probablement proche de l'isoméride. Mais j'en savais pas plus. Donc l'enquête commence.
Et comment, justement, comment, à partir de ce moment où vous avez la puce à l'oreille, comment vous procédez? Parce que on peut dire, hein, d'une certaine façon, que faire de la médecine aussi, c'est faire de l'enquête. Comment, oui, là, dans ces cas-là, avec vos patients, comment vous procédez à partir
de
2007?
Alors, c'est vrai que faire de la médecine, c'est une enquête pour aboutir à un diagnostic et à un traitement. Et donc, je suis avec une patiente qui souffre de cette maladie rare, l'hypertension pulmonaire. Je cherche à comprendre pourquoi elle a cette maladie et je tombe sur ce Mediator qui aurait peut-être un lien avec l'isoméride. Donc, quand on est médecin et qu'on a une alerte, ce qui s'appelle de pharmacovigilance, on regarde, par exemple, si d'autres malades sont concernés. Donc je regarde et j'interroge d'autres de mes patients qui souffrent de la même maladie. Après, je vais aller faire une enquête dans les codages de l'hôpital, en fait, dans les archives de l'hôpital. Je vais en parler à des collègues. Et je dirais que le deuxième signal très fort va venir de mon collègue Yannick Jobic, qui est cardiologue, et qui va me signaler, là, cette fois-ci, une atteinte des valves du cœur, qui lui rappelle aussi ce qui était décrit avec l'isoméride. Donc, vous voyez, on construit petit à petit une alerte de pharmacovigilance. Mais il y a une deuxième question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est quoi le Mediator? Alors, je déclare les quatre pharmacovigilances, parce que ça, c'est une obligation. Et ma responsable de pharmacovigilance, le docteur Dominique Carlan, pose la question au laboratoire Servier. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le lien entre Mediator et isoméride? Et elle me transfère cette réponse en avril 2008. Et la réponse, c'est que Mediator et isoméride sont des molécules radicalement différentes et qui, en particulier sur le plan chimique, n'ont pas de point commun, et y compris dans leur métabolisme, une fois absorbés par l'organisme. Alors quand je lis ça, le Mediator est commercialisé depuis 33 ans, et je me dis, bon ben, en fait c'est une fausse alerte. C'est-à-dire, je me suis trompé, puisque ça, je sais pas pourquoi, Prescrire dit que c'est un rapport avec l'isoméride, mais non, le labo me dit que c'est pas vrai.
Sauf que,
je me dis quand même, c'est bizarre, et j'écris à la revue Prescrire. Et je leur dis, mais d'où vous tenez l'info qu'il y a un lien entre ces deux molécules? Et là, je reçois par la poste des documents des années 70 qui ne sont pas disponibles. Là, j'ai cherché sur Internet, j'ai rien trouvé. Enfin, il y a pratiquement aucune indication, ce qui est tout à fait fascinant quand même pour un médicament. Et ces documents, ils sont signés, sont des documents scientifiques, signés par des chercheurs de Servier qui décrivent une molécule dérivée de l'isoméride qui n'est autre que celle du Mediator. Donc là, je commence à comprendre qu'il y a un loup, qu'il y a un problème. Et ensuite, ma responsable de pharmacovigilance m'amène quelque temps après un document assez mal fichu qui montre des molécules, et je comprends que c'est la molécule du Mediator et la molécule de l'isoméride. Et surtout, ce que je comprends en déchiffrant ce grimoire, on est vraiment dans des indices d'enquête, on cherche les pièces d'un puzzle, que le Mediator et l'isoméride délivrent dans l'organisme une molécule active, un principe actif, qui porte ce nom imprononçable, norfinfluramine. Sauf que là, quand j'interroge cette fois-ci Internet et les moteurs de recherche, norfinfluramine, je découvre que le drame de l'isoméride a trouvé une explication. Donc, ce drame de l'isoméride, je rappelle, s'est produit 12 ans auparavant. Et cette explication, c'est la norfinfluramine. Les chercheurs américains ont découvert que la norfinfluramine, elle se fixe sur les vaisseaux du poumon, sur les valves du cœur, et qu'elle les attaque. C'est ça, le poison, et c'est ça ce que nous appelons dans la bande dessinée le chaînon manquant. J'ai tout à coup Là, je bascule. C'est un peu comme le club des cinq. On part en vacances, tranquille, peinard. Puis tout à coup, on est face à... On bascule dans le polar. C'est exactement ça. Moi, je suis médecin. Je fais mon travail de pharmacovigilance. Bon, j'enquête peut-être sur un facteur de risque. Et puis tout à coup, je me dis, mais ce laboratoire m'a menti. Il ne me dit pas qu'il y a un poison, que ce poison, il est connu, estampillé. Ça s'appelle le norfinfluramine et c'est mortel. Et là, vous savez, c'est là où je bascule dans le polar. Et c'est là où je me dis, ces documents, il faut que je les garde précieusement parce que ça va se terminer sur le bureau d'un juge d'instruction, un jour ou l'autre.
Oui, il vous a fallu deux ans d'enquête avant de finir justement sur le bureau d'un juge d'instruction. Juin 2009. Je pousse la porte de la morgue avec appréhension. L'autopsie a commencé. J'aperçois Isabelle, médecin légiste, perchée sur un petit escabeau, protégée par une blouse, des lunettes, des gants, inclinée sur un corps barré d'une large incision. Elle me sourit. Cela m'empêche de vaciller tout à fait. En face de moi, je reconnais les traits sans vie de Madame A. Isabelle procède méthodiquement à l'examen des viscères et finit par extraire le cœur. Elle pratique au bistouri une incision l'ouvrant en deux parties, révélant les cavités du cœur séparées par une valve, la valve mitrale. Celle-ci est profondément remaniée. Même à un regard non averti comme le mien, je pense alors, c'est comme le nez au milieu de la figure. Les cordages de la valve que nous observons sont monstrueusement déformés, épais, rétractés, comme englués dans un tissu blanc et brillant, presque nacré. Cet aspect, nous le connaissons maintenant trop bien. Nous prenons des photos de ce cœur martyrisé. Je m'éloigne et jette un dernier regard sur ce corps, frappé par un détail. Sur le bras, bien rond, se détache un tatouage de médiocre facture en forme de cœur. À l'intérieur, je déchiffre une inscription. Pour la vie. La dernière fois que j'ai vu Madame A, il y a quelques semaines, elle vivait encore. Elle m'a raconté son histoire, l'histoire d'un médicament pris pour maigrir.
Voilà un extrait de votre livre « Mediator 150 mg, combien de morts ?» paru en 2010. Irène Frachon, qu'est-ce qui a été le plus difficile lors de ces deux années d'enquête de 2007 à 2009? Quelle a été votre plus grande difficulté dans ce combat?
La plus grande difficulté, en fait, ça a été de me rendre compte, comme on l'entend là de manière affreuse, qu'il y avait une toxicité folle d'un médicament massivement consommé tous les jours par plus de 300 000 Français. J'ai regardé les chiffres de vente du Mediator, je me suis dit, mais c'est monstrueux. Et tous les jours, je pensais, dans tous les foyers, des femmes et des hommes qui allaient prendre ces comprimés, et puis qui commençaient à étouffer, qui commençaient à tousser, à pas aller bien, puis qui allaient mourir. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On hurle. Et je savais qu'avec l'affaire de l'isoméride, ça allait être très difficile de faire entendre cette alerte. Je le savais déjà, je le pressentais déjà auprès des autorités de santé. J'avais déjà transmis ces alertes de pharmacovigilance, j'avais pas eu de retour. Et je sentais que ça allait très mal se passer. Donc c'est surtout ça, c'est un peu, vous êtes dans un cauchemar, vous savez, vous criez, puis le son ne sort pas. C'est exactement ça.
C'est une image assez terrible. Qu'est-ce qu'a fait durant... Bah, vous maintenez l'alerte de pharmacovigilance entre 2007 et 2009. Qu'a fait l'agence du médicament nommée AFSAPS à l'époque?
Alors l'agence a réagi comme je m'y attendais. C'est ça qui est absolument terrible. C'est-à-dire que j'avais le souvenir que pour mes collègues en 97, ça avait été déjà très compliqué. Et là, rebelote. On ne m'écoute pas, on ne m'entend pas. J'apprends par des collègues que on se dit mais c'est quoi cette folle là qui nous emmerde. Enfin un truc mais de fou parce que je suis praticien hospitalier, je suis médecin et je comprends que ça va être déjà un premier combat pour faire entendre raison à l'agence. On saura bien plus tard, là encore au procès, et ce sera très éclairant, qu'en réalité le véritable patron de l'agence s'appelle Jacques Servier.
Oui, qu'il y a des, au moment où l'affaire éclate, en effet, il y a des conflits d'intérêts qui sont mis en avant.
Mais c'est pire que ça. On va découvrir, et ça je l'entends au procès, que lors de la fondation de cette agence, il y a eu une réunion fondamentale qui s'est tenue entre Jacques Servier, son pharmacien-chef qui s'appelait Alain Le Ridan, et le monsieur médicament de la France, enfin... Monsieur médicament français, pardon, directeur bis de l'agence, le professeur très respecté Jean-Michel Alexandre, et que la conclusion écrite de cette réunion, c'est l'agence sera un instrument au service de l'industrie pharmaceutique française. Et dans cette réunion, on commence à s'entendre sur les responsables qui vont être désignés au sein de l'agence, donc avec l'imprimature de Jacques Servier. Et en fin de réunion, quelle est la fiche qui est transmise à l'agence par Servier pour régulariser des obstacles administratifs, celle du médiator. On est en 1993. Et le sort de milliers de personnes est, je pense, scellé ce jour-là.
On arrive en 2009, le médiator est enfin retiré du marché. Est-ce que vous nous racontez quel a été le levier pour arriver enfin à cette interdiction?
Alors pour arriver à cette interdiction, il a fallu effectivement déployer tous les moyens de preuves scientifiques. Vous savez, vous avez votre émission, c'est CQFD. Et en fait, le médiator, c'est CQFD. Et ce qui est anormal, c'est que ce qu'il fallait démontrer, on a été obligé de le répéter, moi, et puis j'ai compris d'autres collègues avant moi, de façon incessante pendant des dizaines d'années, et que encore aujourd'hui, ce CQFD est contesté par les laboratoires Servier, qui par ailleurs continuent à exercer. CQFD, c'est de montrer que la norfinfluramine tue. C'est soupçonné dès les années 80, c'est démontré en 1997, et en 2008, je dois encore le démontrer auprès de l'agence, en faisant des études, ce qu'on appelle épidémiologiques, sur des bases de données, en sollicitant un médecin de la sécurité sociale, que j'appelle le Père Noël, qui va refaire lui-même, croiser ces bases de données pour prouver cet excès de risque, etc., etc. Et finalement, l'agence, coincée, va être obligée de retirer le médiator, mais en catimini, sans donner l'alerte, sans prévenir les consommateurs de ce poison, rien. Voilà. Et ça se fait fin 2010.
Alors quand justement, quand le médiator est enfin interdit, quelle est votre réaction à l'époque?
Alors la première, c'est de me dire, je le raconte dans la BD, j'espère que je ne me suis pas trompée, parce que bien sûr, on va faire sûrement un dépistage, des échographies cardiaques, enfin voilà, ça. Et puis il ne se passe rien. Et donc là, je me dis, c'est pas possible. Ça fait 30 ans qu'en tant que médecin, je m'occupe de victimes de Servier. Toute ma vie professionnelle, je soigne chaque semaine des victimes de Servier. Victimes de l'isoméride, victimes du médiator, puisque c'est ma spécialité, l'hypertension pulmonaire. Et qu'une proportion encore importante de ces malades sont les derniers survivants de l'isoméride. Et puis maintenant, bien sûr, avec le médiator, depuis 10 ans, c'est voilà ma salle d'attente, c'est ce que je dis, la France entière. Donc je me dis, c'est pas possible. Ils ont osé maintenir le médiator en dissimulant le poison, alors que ils savent que l'isoméride, qui délivre ce même poison, a été la cause d'immenses drames en France, dans le monde entier, aux États-Unis, qu'il y a eu. Ils connaissent les dossiers, puisqu'ils ont même eu à régler la note au Canada, etc. Et ils ont continué. Alors d'abord, j'en déduis plusieurs choses. Premièrement, les victimes du médiator, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Elles ont tout perdu. Soit elles sont mortes, soit elles vont mourir. Elles n'ont plus de travail, le compagnon s'est éloigné, sont des vies brisées. Si elles portent plainte seules, elles vont se faire écrabouiller, comme l'ont été les victimes de l'isoméride. Et puis ce labo, mais ça continue. Et donc, ils continuent à commercialiser des médicaments dangereux en toute impunité. Donc là, vous vous dites, mais ça n'est pas possible. Il faut que je témoigne de ça. Mais comment faire? Je peux pas saisir l'article 40, les articles dans les journaux. Vous voyez, c'est une histoire. Vous avez vu la BD, c'est 200 pages quand même. Donc, il faut pouvoir la raconter. Ça va être ce livre, finalement, qui est un livre témoignage parfaitement documenté, comme la bande dessinée. Tout est référencé. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. C'est ça mon job de le rendre public et que la justice s'en saisisse. Enfin.
Ce livre, hein, Mediator, 150 mg, combien de morts aux éditions Dialogue, sort en 2010. À sa sortie, le laboratoire Servier fait censurer le titre.
Sous-titre censuré, c'est avec cette étiquette que l'éditeur brestois Dialogue a remis en vente le livre de la pneumologue Irène Frachon sur le médicament Mediator.
Ça devient un problème d'intimidation d'une entreprise économique très puissante contre une entreprise qui est considérablement moins puissante, petit éditeur, un petit libraire de province. Je pense qu'on est dans la volonté de censurer de la part du laboratoire Servier.
Le 7 juin dernier, le juge des référés de Brest avait demandé à l'éditeur de retirer de la couverture la mention « Combien de morts ?» car elle portait préjudice au laboratoire Servier qui commercialise cet antidiabétique controversé.
Cette mention « Combien de morts ?» ne correspond pas à une réalité scientifique avérée, c'est-à-dire qu'en affirmant sous la forme d'une interrogation, mais personne ne s'y trompera, qu'il y a eu des morts et qu'il s'agit maintenant de savoir combien il y en a eu, combien il y en aura, on affirme quelque chose qui ne correspond pas à la réalité.
Voilà, cette publication et cette censure, c'est aussi ce qui permet au scandale d'éclater, Irène Frachon.
En partie, en fait, c'est le travail de la presse. Censure ou pas, elle avait commencé déjà. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Dès que le livre est paru, la presse était là. Là, c'était le Nouvel Obs, c'était le magazine de la santé, c'était Grazia pour les femmes, très important. Très belle enquête, ils sont même venus me voir, etc. La censure tombe. Je me souviens d'ailleurs, là j'ai vu, Marina Carrère-Dancos qui me dit, tu te souviens, il y a 10 ans, on t'avait invité, parce qu'on est devenus amis finalement, on t'avait invité pour parler de ce livre et on a dû manuellement censurer le sous-titre parce que la condamnation venait de tomber. Donc c'est vous dire que en fait les médias étaient en alerte déjà et ils ont fait le job. Alors bien sûr la censure ça les a un petit peu sidérés, mais en réalité le job commençait. Il a été repris après par le journal Le Figaro, mais aussi par Le Canard, par Marianne, par L'Humanité, et de tous bords,
oui,
ça a explosé.
Quelles que soient les lignes.
Isabelle Giordano, etc. Enfin, je veux dire, non. Et Le Parisien. Et ça a permis, comme des bouteilles à la mer, c'est arrivé par exemple aux oreilles du député Gérard Bapt, qui a eu un rôle majeur, qui a dit c'est quoi ce truc-là ? Rapporteur à Mission Santé à l'Assemblée Nationale, cardiologue, il m'appelle, il relaye cette alerte, et finalement, l'agence est contrainte de faire le décompte des morts. Il est effroyable, il est de plusieurs centaines, on sait aujourd'hui que c'est plusieurs milliers, et c'est le début du scandale du Mediator, enfin.
Alors dans ce livre, ce qu'il y a aussi de très fort, et ce qu'on a entendu dans l'extrait qu'on a pu entendre tout à l'heure, c'est que vous nous sensibilisez à la souffrance des corps. C'est aussi quelque chose que vous menez comme bataille, c'est celle de l'indemnisation des victimes.
Oui, parce que moi, ce qui a été toujours parmi les nombreux, enfin le sujet majeur d'inquiétude, c'est les conditions de vie de ces survivants de l'Isuméride et du Mediator, qui sont désastreuses. Il faut savoir que ce qui est touché, c'est le moteur, c'est le cœur. Et quand le cœur est malade, on ne peut plus rien faire de sa vie. On ne peut plus travailler, on ne peut plus faire de sport, on ne peut plus danser, on ne peut plus faire l'amour. On ne peut plus rien faire. La famille s'éloigne. Ça ne se voit pas forcément. Il y a beaucoup d'incompréhension qui s'installe. On perd ses revenus. C'est effroyable, le sort de ces victimes. Et encore récemment, d'ailleurs, en décembre, c'était la mort de Cathy, le 6 décembre.
Cathy qui est dans l'album et dont le témoignage est assez bouleversant, en effet.
Et puis surtout révoltant. Oui. Parce que vous avez vu comment elle était traitée par Servier, quand même. Ça, il faut en dire un petit mot. Donc, moi, mon obsession, c'est qu'au moins, ils aient quelques moyens pour vivre. Et donc, ça a été effectivement la bataille, la guerre de l'indemnisation qui n'est pas terminée aujourd'hui. Il y a encore des centaines de dossiers en souffrance.
Oui, comme on le disait en début d'émission, on a encore de nouvelles victimes qui sont identifiées tous les jours. Et vous me parliez, juste avant ce direct, d'un courrier que vous venez de recevoir également.
Alors oui, ça je vais vous en dire un petit mot, parce que quelquefois on se dit, la mère Frachon, elle est complètement obsessionnelle avec son combat.
Vous sortez votre téléphone portable.
Je sors mon téléphone portable parce que j'ai pris une petite photo de ce courrier que j'ai reçu début décembre. Et là je me suis dit non, la douleur des victimes, elle ne s'éteint jamais. Et quand il s'agit d'un crime, on ne peut pas faire son deuil. J'ai reçu cette lettre d'un vieux monsieur, je pense qu'il est très vieux maintenant, qui me dit, voilà, docteur Irène Frachon, j'ai reçu ça là, en décembre 2022. Il me dit, le document télévisé qui porte, il y a eu un reportage sur mon combat, droit au cœur, m'a rassuré. Vous n'avez jamais baissé les bras face à un géant. Ma fille Yannick a malheureusement, sur ordonnance de son médecin gynécologue, utilisé ce médicament coupe fin définitive pour Annick, l'isoméride. Elle est décédée le 21 avril 1990 à l'hôpital Antoine Béclair. Avec mon épouse, nous refusons de faire notre deuil. Et il finit son courrier en me disant « Je tiens à vous féliciter de continuer ce très difficile combat. Merci encore et surtout, ne lâchez rien. » Et je me suis dit, Annick, j'ai dû la croiser. Elle avait 27 ans comme moi. Moi, j'étais interne en médecine dans le service donc de l'hôpital Antoine Béclair. Et elle, elle était en train d'y mourir à 27 ans, après avoir mis au monde un enfant, parce qu'elle avait consommé ce coupe-faim dont on savait déjà qu'il était mortel. C'était en 1990. Et je pense que jusqu'à la fin de mes jours, je témoignerai de ça.
Tout près de Paris, place de la mairie, y a un pharmacien de première classe. C'est l'enfant chéri des dames du pays qui murmure en lui faisant des grâces.
Joli pharmacien, vendez-nous vos cachets, vos pilules.
Je ne me sens pas bien, je voudrais des pastilles qui stimulent.
Depuis 4 jours, j'ai mal à l'estomac.
Mon arrière-grand-père a un peu d'eczéma.
Moi, j'ai attrapé une crampe au cinéma.
Mon oncle Victor est tombé dans le coma. Joli pharmacien, d'où me vient ce bouton ridicule? Joli pharmacien, comprends donc ce que nous voulons. Ce n'est pas dans tes bocaux qu'est le remède à nos maux. Joli pharmacien, tu souris, nous voilà guéris. À tous ces discours, comment rester sourd? Pauvre pharmacien, tu n'étais pas de glace. Successivement, il devint l'amant de toutes ses clientes, mais un beau jour, hélas, le joli pharmacien dû se bourrer de cachets, de pilules. Il dut s'empiffrer de pastilles orientales qui stimulent. L'amour lui faisait très mal à l'estomac. Le moindre baiser lui donnait de l'eczéma. À chaque pas, il fallait qu'on le ranimât. Dès qu'on l'embrassait, il tombait dans le coma. Alors à Priville, il vendit sa pharmacie chérie. Et puis il partit en laissant un vieux remplaçant. Mais c'est curieux, curieux, depuis ce temps-là, dans la boutique plus un chat, c'est que le remplaçant, tout bonnement, a 76 ans, 76 ans.
Jean Sablon, le joli pharmacien sur France Culture. Car nous parlons d'un des plus grands scandales sanitaires français, l'affaire du Mediator révélée par la lanceuse d'alerte Irène Frachon, avec qui nous avons la chance de nous entretenir pendant une heure. Alors nous venons de parler des différentes étapes de l'enquête que vous allez mener. On arrive en février 2011, il y a enfin une ouverture d'une enquête décidée par le procureur de la République. Des centaines et des milliers de plaintes sont déposées pour tromperie aggravée et prise illégale d'intérêt, homicide involontaire. L'enquête va être tentaculaire, Irène Frachon.
Oui, elle va être tout à fait remarquable d'ailleurs. Je dois dire que j'étais impressionnée par les moyens mis en œuvre et la détermination des enquêteurs, des juges, qui étaient droit dans leurs bottes et qui travaillaient bien. Alors qu'ils étaient constamment barrés et empêchés par la défense de Servier, qu'on peut apparenter à un pilonnage d'artillerie lourde. C'est-à-dire des cabinets d'avocats de haut vol, bien évidemment impayable hein, pour le commun des mortels, et dont le job est de bloquer et d'étouffer la justice, de contester tout 14 fois jusqu'en cour de cassation, avec des coups inouïs mais qui n'ont pas d'importance. Et donc ce travail s'est poursuivi avec une véritable autopsie en fait de ce crime industriel, des perquisitions qui ont permis de faire remonter en fait la mémoire de la mise sur le marché frauduleuse dès le départ, dès les années 60, de ce coupe-faim. Donc ça, c'était absolument sidérant et très encourageant. Finalement, ce qui a été dramatique, c'est que les manœuvres dilatoires de Servier ont fonctionné, que petit à petit, l'affaire a commencé à s'étirer dans le temps, que les malades ont été et les victimes malmenées comme prévu par la défense de Servier, avec des expertises ignobles qui ont abouti pour l'une de mes patientes à son arrêt cardiaque, au décours de cette expertise, ça, c'est vous dire sa violence. Et il y a eu heureusement le vote d'une loi d'indemnisation. Et puis là, j'ai compris qu'il fallait repartir au combat. Le labo n'était pas mis hors d'état de nuire. Moi, j'aurais attendu que, dès les faits connus, on prenne sous tutelle ce laboratoire, qui est une administration autoritaire qui dise « Attendez, stop, là, vous êtes extrêmement dangereux. Il ne s'agit pas de fermer la boîte, bien sûr, mais il s'agit d'en prendre le contrôle, d'une sorte de détention provisoire. Hein, elle était mise en examen comme personne morale. Et pendant ce temps-là, on va résoudre et on va développer cette enquête et résoudre le sort des victimes. » Et en fait, ça nous est revenu en boomerang. Il a fallu à nouveau se battre, et encore aujourd'hui, pied à pied, contre les arguments mensongers, fallacieux, trompeurs des cabinets d'avocats qui reflètent bien évidemment la défense de la direction de Servier.
Et puisqu'il faut dire que le 23 septembre 2019, ça a été l'ouverture du procès pénal au tribunal correctionnel de Paris à l'encontre du laboratoire Servier, de l'Agence française du médicament. Le parquet a fait appel à un deuxième procès, en appel s'ouvrira lundi prochain, lundi 9 janvier. En 2019, vous assistez à l'intégralité du procès, Irène Franchon, comment l'avez-vous vécu?
Alors, ça a été extraordinaire ce moment, d'abord parce que je l'ai vécu côte à côte avec Lisa. Lisa, c'est la fille de Pascal, qui ouvre, dont le drame ouvre la bande dessinée. On l'a écrit ensemble, si je puis dire. Lisa, à 20 ans, a vu sa mère mourir en 15 minutes, étouffée dans ses bras. Atteinte, en fait, du médiator, elle ne le savait pas, on était en 2004, et elle le découvrira au moment où le scandale éclate. Elle devient avocate, et je la retrouve sur les bancs à l'ouverture de ce procès. Et puis elle finit par me dire, tu sais Irène, j'ai lâché mon travail d'avocat, je me suis mise comme toi en congé, parce que je veux être là tous les jours. Donc nous avons suivi ce procès tous les jours, côte à côte. Et nous avons vu se dérouler la lâcheté, l'incompétence, les embrouilles de l'agence qui a été condamnée définitivement. Elle a reconnu, les responsables actuels de l'agence ont reconnu ses fautes inexcusables et n'ont pas fait appel. Donc l'agence du médicament reste définitivement condamnée. Ensuite, nous avons vu le défilé des menteurs du côté du laboratoire. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'en réalité, nous avons réalisé, et encore aujourd'hui, qu'ils n'ont pas changé. Ils continuent à proférer les mêmes mensonges effrayants en disant « Mais non, le médiator n'était pas un coupe-faim. » C'est comme si je disais, moi, médecin, c'est « Ben non, la pénicilline, c'est pas un antibiotique. Ah ben non, la morphine, c'est pas un antidouleur. » C'est aussi énorme que ça. Et ça prend des mois et des mois et des mois de débats démentiels. Donc ça m'a complètement sidéré. Bon, cela dit, c'était évident. On a entendu la voix des victimes déchirante, insupportable. Donc c'était un procès de bonne tenue, si je puis dire. Mais j'étais un peu inquiète. Et malheureusement, le verdict n'a pas été à la hauteur, n'a pas suivi les réquisitions du procès, n'a pas permis de dire « bon, ça c'est juste pas possible de faire ça, de faire mourir des milliers de gens parce qu'on leur vend un poison sciemment, ça n'est pas possible ». Ben ça, la justice n'a pas été capable de dire « stop, ça c'est la case prison sans passer par la case départ ».
Oui, on peut rappeler quand même quel a été le verdict rendu le 29 mars 2021.
Le verdict, oui, condamné pour tromperie, blessure, homicide involontaire, mais pour l'ex numéro 2 de Servier, 4 ans avec sursis, et ne recommencez pas, sinon vous irez en prison, quand même, je l'ai entendu. Pour la boîte, 2,5 millions d'amendes, alors que le chiffre d'affaires est de 4,5 milliards, voilà. Relaxé pour la fraude initiale, soi-disant prescrite, le parquet n'a pas la même lecture, a fait appel. Relaxé pour l'escroquerie, qui est pour moi le casse du siècle, pour des points de droit qui restent à mes yeux totalement obscurs, y compris au parquet, qui a fait appel. Donc en fait, la montagne qui accouche d'une souris, et ça c'est inacceptable, parce que c'est encore à nous de défendre les victimes tous les jours. La justice n'a pas pu y mettre un terme.
Je suis contente, mais un peu plus condamnée, ça aurait été mieux. Parce que 4 ans avec sursis, excusez-moi, mais il y en a eu qui n'ont pas eu le temps d'avoir des sursis. Hein.
Moi, je suis condamnée à vie. Tous les jours, je prends un médicament pour rester en vie. Tous les jours, pour le cœur et pour le sang. Depuis 10 ans. Vous savez, quand quelqu'un, en laboratoire, fait un médicament, il cherche des cobayes. Donc, ils sont rémunérés. Nous, on était des cobayes. C'est nous qui payons le laboratoire Servier pour se faire soigner. Il est en train de nous faire crever.
Ils se sont fait 400 millions sur le médiator. Hein. Donc, ils pouvaient... Le tribunal pouvait marquer le coup.
Les stigmates vont rester à vie et ça va s'aggraver. Donc malheureusement, on espère profiter un peu de la retraite, et ben, je ne sais pas si on la verra.
Voilà les témoignages et les réactions des victimes lors du procès du médiator en 2021. Irène Frachon, cette dissonance entre la reconnaissance de la culpabilité et la modicité des peines, ça c'est un double scandale?
Oui, c'est ce que j'appelle le manque de clairvoyance. Vis-à-vis de ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. Je me suis aperçue que finalement, la justice, elle est bien calibrée, après on peut contester beaucoup de choses, mais finalement pour punir les délits de droit commun, meurtre, voilà ce qui se passe dans la rue, les cambriolages, les ceci, les cela. Bon, on a vu que ça devenait compliqué pour le terrorisme, parce que souvent, on n'a pas forcément les vrais coupables en face de soi. Bon, il y a des... Et puis que c'est tentaculaire. Mais alors, la délinquance en col blanc, pourtant là où il y a eu des milliers de morts, c'est juste, quand même, la catastrophe, avec une décision totalement frileuse, totalement inadaptée, étriquée, et qui ne fait pas sens. Alors, ça ne fait pas sens pour les victimes, on ne parle pas de vengeance, hein, c'est pas du tout la question, mais les gens meurent, et les gens meurent parce qu'ils ont été sciemment exposés à un poison mortel. Hein, ça n'est pas une erreur d'appréciation, comme ose le soutenir encore le dirigeant actuel, Olivier Leroux, donc qui ne reconnaît aucune faute, et notamment aucune faute pénale. Il faut savoir que c'est l'ex-responsable de la pharmacovigilance de Servier qui était chargé jusqu'à très récemment de débouter les demandes de ses propres victimes. Il y a quelque chose de monstrueux dans ce serpent qui se mord la queue. C'est incroyable ce qui se passe. Et malgré tout ça, la justice nous dit « bah non, nous on fait du droit, toup, 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 et voilà. Monsieur X n'a pas été condamné, donc c'est du sursis, mais s'il recommence, il ira peut-être en prison. » Mais s'il recommence quoi? Mais c'est du délire. Donc, il y a un côté exemplaire. C'est ce que le titre de la BD, c'est un crime chimiquement pur. C'est une tromperie presque parfaite. Et là, il faut... Tout a été vu, décortiqué de cette tromperie. Donc, c'est le moment de dire stop, vraiment, et de rassurer la population qui après ne sait plus à quel saint se vouer. Pendant la pandémie, tous les charlatans étaient vus de la même façon que les autorités de santé. Mais pourquoi? Parce qu'on continue à avoir des partenariats entre ce labo délinquant, Servier, qui est considéré, franchement, par nombre de mes confrères, sociétés savantes, de cardio et autres, comme des partenaires comme les autres. Donc, si on peut faire confiance, avoir des partenariats, l'Institut Gustave Roussy, le plateau de Saclay, l'école polytechnique, et j'en passe, des subventions gouvernementales, à un labo condamné pour avoir provoqué la mort de façon tout à fait calculée de milliers de personnes en France, et que on dit bah non, mais il est comme les autres labos en fait, ou alors on me dit aussi ils ont changé, mais ils ont pas changé, ils profèrent toujours les mêmes mensonges. Comment voulez-vous que la population se rassure. Et pour moi, c'est l'enjeu majeur de cette justice. Bien sûr, on l'a vu, il faut rendre justice pour les victimes. Je vous ai lu la lettre de ce père qui ne peut pas faire son deuil, plus de 30 ans après la mort de sa fille, parce qu'il y a eu de l'injustice. Bien sûr, la mort, elle fait partie de la vie. Mais quand elle est sous le sceau de l'injustice, on ne peut pas faire son deuil. Et donc, ça, c'est un élément essentiel. Mais le deuxième, c'est d'envoyer un message à tous nos concitoyens, dont plus de 10 millions ont été quand même intoxiqués par ces saloperies, en leur disant « mais vous inquiétez pas les gars, quand il y a des labos qui franchissent cette ligne rouge, c'est terminé pour eux. Ils ne sont plus reçus par comme sponsor, ils ne sont plus les bienvenus. Même si ils continuent leur business, ce que je ne comprends pas, on ne peut plus leur faire confiance. C'est comme, moi je l'avais dit au moment de la subvention gouvernementale, faire confiance et donner une subvention à un pédophile qui sort de prison pour l'aide à l'enfance. Je veux dire, on est dans la même logique, sauf que dans un cas, le pédophile, tout le monde crie « Ah, c'est épouvantable !» Et dans l'autre cas, l'industriel délinquant dit « Oh non, mais bon, voilà, ils ont changé, hein, donc leur pognon, on en veut bien. » Ça n'est pas possible, c'est inentendable, ça creuse le fossé avec nos concitoyens, ça majore le complotisme, c'est un drame en fait.
Voilà, le procès en appel commencera lundi 9 janvier.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
Vous écoutez France Culture et vous écoutez Irène Frachon qui a révélé le scandale du Mediator. L'affaire du Mediator, c'est une affaire révélatrice. Irène Frachon, que nous a-t-elle appris sur le fonctionnement de la chaîne du médicament ?
Ce que nous a appris cette affaire, mais ce qui est très douloureux finalement et qui pour l'instant est mal entendu par les responsables, les autorités sanitaires, enfin... Là, je ne vais pas parler franchement des autorités sanitaires parce qu'elles ont fait un peu leur révolution, mais plutôt le milieu médical d'une manière générale, universitaire, société savante, gouvernant, notamment du côté du ministère de l'économie. C'est que la délinquance en col blanc qui provoque des morts d'hommes, elle doit être sanctionnée et on ne doit pas tourner la page. Et le fait de mettre l'économie et l'argent en priorité par rapport à la vie des gens, c'est intolérable dans tous les domaines, mais notamment celui de la santé. Et ça touche à la question de ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Servier, on a retrouvé une note assez extraordinaire dans les perquisitions, où un responsable du sous-labo de Servier qui vendait le Mediator dit il rend compte en fait de subventions et de sponsoring et de paiements réalisés auprès de nombre de médecins de la région Alpes-Côte d'Azur, PACA. En fait, le Mediator a été majoritairement prescrit dans le sud de la France et manifestement, il y avait quand même une proximité avec Servier particulièrement nette dans ces régions-là, mais qui concerne toute la France aussi. Hein. Et il disait « Le retour que nous avons n'est pas à la hauteur de l'arrosage. » Il se plaignait que le retour... Alors, je m'explique. Le retour, le nombre de prescriptions de médicaments, dont le Mediator, parce qu'ils ont l'œil sur les prescriptions, n'est pas à la hauteur de l'arrosage, c'est-à-dire de l'argent que nous avons distribué à ces médecins, à ces sociétés savantes. Donc, c'est glacial, et, ou glaçant plus exactement, et le conflit d'intérêts, c'est que l'intérêt du labo va être privilégié, consciemment ou inconsciemment, par les acteurs de santé, dès lors qu'ils reçoivent de l'argent, d'une manière ou d'une autre, de la part de ce laboratoire. Là, l'intérêt d'un industriel, on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être rentable. L'intérêt d'un soignant, c'est l'intérêt de son patient, c'est-à-dire primum non nocere, c'est-à-dire vraiment, quel que soit le médicament, d'abord, est-ce qu'il est bénéfique à ce patient-là ? Et le médicament idéal qui mettrait tout le monde d'accord, c'est-à-dire qui guérit tout le monde et qui n'a aucun effet secondaire, n'existe pas. Oui, là, il y aurait un intérêt convergent des industriels et des médecins. Un médicament qui fait plaisir à tout le monde. C'est quand même exceptionnel. Donc, il faut absolument étanchéifier et être beaucoup plus rigoureux sur ces liens, car quand l'intérêt de l'industriel est en jeu, les stratégies d'influence développées par ces industriels, ce sont celles de la pub et du marketing qui fonctionnent, sinon il n'y aurait plus de pub, hein, si ça ne marchait pas, et qui influencent, et de multiples enquêtes le confirment, qui sont publiées, CQFD, là aussi, influencent la prescription, quelquefois, au risque de la santé du malade.
Dans un entretien dans le journal Le Monde, vous déclarez on est encore dans la préhistoire de la conscientisation de ce qu'est un conflit d'intérêts. Est-ce que ces notions sont-elles enseignées dans les écoles de médecine, par exemple, ou est-ce que il y a un manque de formation auprès des jeunes médecins?
Alors, il y a un manque de formation énorme. Heureusement, depuis l'affaire du Mediator, il y a eu quand même mobilisation. Il y a une association qui s'appelle le Formadep, et puis il y a beaucoup d'initiatives de médecins, parce que il faut jamais généraliser, je fais pas d'amalgame, et des médecins sont sincèrement indignés par l'affaire du Mediator, se sont engagés auprès des victimes, et pour d'autres, se sont engagés pour enseigner la question des conflits d'intérêts, et souvent ils me font signe pour participer à des sessions. Mais ça reste très marginal, ça reste très inégal, et on progresse à dire vrai peu, et surtout on est combattu, c'est-à-dire que moi j'ai essuyé des rebuffades, des tribunes dirigées contre moi pour dire ah non mais c'est le tous pourri, on peut pas dire ça, et l'innovation thérapeutique et ceci et cela. Sans être manichéenne, les conflits d'intérêts en médecine posent d'énormes problèmes de sécurité sanitaire, et il faut bien évidemment enseigner aux futurs médecins. Alors je vais revenir hein, et vous le savez, ma bande dessinée, pourquoi je l'ai ce livre témoignage sur toute l'affaire de ces coupes fins mortelles, pourquoi je l'ai décliné en bande dessinée, c'est pour que ce soit lu notamment dans les facs de médecine, dans les facs de pharmacie, dans les facs de Sciences Po, de droit, pour que la génération qui vienne connaissent cette histoire-là, que tous ces morts-là ne soient pas morts pour rien et que l'on en tire des leçons pour l'avenir.
Dans un entretien au Monde, hein, toujours le même, vous avez aussi déclaré « Je ne me suis pas levé un matin en me disant que j'allais dénoncer l'industrie pharmaceutique. J'ai en réalité simplement fait mon travail, puisque la pharmacovigilance, dénoncer les effets secondaires des médicaments, est une obligation des médecins. Le problème, c'est que beaucoup ne le font pas. Pour quelle raison ? On arrive à la fin de cette émission, mais pourquoi les lanceurs d'alerte que devraient être les médecins ne le font pas assez ? C'est parce qu'ils ne sont pas assez protégés ?
Alors, c'est une question, je pense, assez complexe. La déclaration des effets secondaires est une obligation réglementaire pour le médecin ou tout soignant. Il faut dire qu'à l'époque, c'était très compliqué de déclarer, c'était tout un bin, sans s'en bas. Et puis voilà, on a 50 000 tâches, et donc ces déclarations, souvent, c'était sous la pile, comme on dit. C'est un petit peu... Et puis, il y a malgré tout... Il faut l'enseigner. Un médecin, souvent, il épouse cette vocation pour faire du bien, l'innovation thérapeutique, etc. L'innovation, il y a cette espèce de fascination que, bien évidemment, travaille beaucoup l'industrie aussi. Et il faut déconstruire un petit peu, quelquefois, cette image de la médecine, admettre qu'il y a des médicaments qui sont toxiques, que quelquefois cette balance entre le bénéfice et le risque va s'inverser avec la connaissance, avec l'expérience, et déconstruire cette idée d'une médecine un peu victorieuse, je pense, elle est quelquefois compliquée. Donc il faut s'y préparer. Il faut être aussi rigoureux sur les effets secondaires, bien évidemment, que sur les effets bénéfiques. Et il faut le faire en toute indépendance par rapport au message marketing de l'industrie pharmaceutique ou des produits de santé d'une manière générale. Et ça, à ce jour, c'est une question qui est absolument non résolue.
Bien, merci mille fois, Yann Frachon, pour cet entretien, pour votre combat contre le lobby pharmaceutique. C'était un plaisir de vous avoir.
Je sais pas, un combat contre le lobby pharmaceutique. En fait, c'est un combat pour alerter le monde de la santé que le conflit d'intérêts est un facteur de risque sanitaire. Premièrement, et deuxièmement, que dans l'affaire particulière du Mediator, on ne peut pas passer l'éponge. Voilà.
Merci beaucoup, Irène Frachon. Merci à Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Préma Agnolo, Natacha Demoule, Céline Lausanne, Eve Etienne. À la réalisation, Anna Holweck. À la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, et nous suivre sur Twitter, @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.
mondiale a provoqué la pire catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité, la peste.
L'exemple même d'une maladie qui est liée au développement humain et à la manière dont l'humanité s'est développée à une certaine époque.
Comme il l'a fait pour le choléra, le Covid, la variole ou le sida, le médecin Renaud Piaroux, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va mener l'enquête pour vous. Mécanique des épidémies, 7e saison La Peste, un podcast de Renaud Piaroux et Anne de Pelchin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.